une période méconnue de l'histoire, quand l'Égypte était grecque et romaine.
Que peut-il y avoir en Égypte que je n'ai point vu ?
L'Égypte elle-même, la raison d'être de l'Égypte. Alexandre avait compris, lui. En régnant sur l'Égypte, il régnerait sur le monde.
Ans d'histoire. Parce qu'ils ont vécu sous 32 dynasties de pharaons, construit des pyramides millénaires et adoré des dieux qui sont restés les mêmes pendant des siècles, on croit parfois que l'histoire des Égyptiens de l'Antiquité, leur vie quotidienne, leurs institutions et leurs religions n'ont pas changé pendant près de 3000 ans. Et on oublie souvent cette période de la fin de leur histoire, pendant laquelle leur pays n'avait plus d'Égyptiens que le nom. Lorsqu'après sa conquête par Alexandre et pendant 300 ans, les pharaons n'étaient plus des Égyptiens mais des Grecs, et quand, après le suicide de Cléopâtre, ce qui était naguère avant la Grèce et Rome la plus grande civilisation de l'Antiquité, est devenu une province romaine, byzantine et chrétienne. Cette longue agonie de l'Égypte qui a duré 900 ans, commençait avec l'épopée d'un homme venu de Grèce et qui, en attaquant l'Empire perse en 334 avant Jésus-Christ, allait bouleverser aussi l'histoire de l'Égypte.
Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteinte ou connue. Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé, si ce n'est le nom de votre roi.
Alexandre ! Alexandre ! Alexandre !
Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête.
Bernard Legras, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien, professeur d'histoire grecque à l'Université de Reims et auteur d'un livre sur l'Égypte grecque et romaine, une période de l'histoire de l'Égypte qu'on connaît mal, alors qu'elle a duré pendant près de 900 ans quand même, jusqu'à l'arrivée des Arabes, une période qui commence avec, on vient de l'entendre, l'épopée d'Alexandre, dont on oublie qu'il n'a pas été seulement roi de Macédoine, le vainqueur de Darius, mais qu'il a été aussi pharaon d'Égypte.
En effet, Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand, arrive en Égypte à l'automne 332 à la tête de ses troupes, formées de Macédoniens, mais également de Grecs des cités, et puis de quelques troupes barbares. Donc c'est une armée cosmopolite qui l'accompagne, et qui va donc conquérir une province perse, une satrapie perse, puisque l'objectif d'Alexandre était de conquérir la totalité de cet empire mondial qui s'étendait depuis la mer Égée jusqu'à l'Indus.
Et qui comprenait l'Égypte, hein, la Perse, vous venez de le rappeler, l'Égypte en faisait partie. C'est pourquoi d'ailleurs je crois qu'Alexandre n'a pas été accueilli en conquérant, mais en libérateur, Bernard Legras.
Alors, l'accueil...
Pour se commencer, en tout cas.
L'accueil fait par les Égyptiens à Alexandre a été un accueil extrêmement positif. En effet, ils ont souffert pendant la domination perse, et ils ont vu ce nouveau conquérant étranger, non pas comme un nouveau dominateur qui allait les exploiter ou trahir leur tradition nationale, mais comme un nouveau dominateur qui allait peut-être leur apporter la restauration de la grandeur de l'Égypte.
Oui, celui qui les avait libérés des Perses, parce que il faut le rappeler, 10 ans avant l'arrivée d'Alexandre, je crois, les Perses avaient déposé celui qui a été au fond le dernier pharaon égyptien d'Égypte, qui était Nectabénébo II, je crois, hein, c'est ça.
Nectabénébo II, en effet, qui a quitté le pouvoir très rapidement, chassé par les Perses, et qui a laissé un souvenir auprès des Égyptiens, comme justement un souverain abandonné des dieux. Et Alexandre, arrivant en Égypte, a parfaitement compris qu'il fallait séduire le cœur des Égyptiens, et que le cœur des Égyptiens passait par les prêtres égyptiens.
Oui, alors il fait cette chose extraordinaire. Il est resté que quelques mois en Égypte, à peine, je crois, en 332, en l'hiver 333-332, si j'ai bien compris.
Oui, il arrive à l'automne 332, il repart au printemps 331 pour continuer la conquête.
Et alors, il a ce geste extraordinaire, il reste très peu de temps, mais il va dans une oasis, à Siwa, en plein désert, pour aller consulter l'oracle d'Amon. Donc, première des choses qu'il fait,
il respecte, ce grec respecte la religion des Égyptiens.
Oui, Alexandre, soit par sa formation politique, n'oublions pas que son maître a été Aristote, qui a pu lui apprendre comment manier la chose politique, comment dominer un pays étranger, puisqu'il avait l'ambition de dominer l'univers. Donc il a compris que pour dominer cette vallée du Nil, les oasis, il lui fallait absolument avoir la garantie, l'onction des prêtres égyptiens, et c'est la raison pour laquelle il est parti dans l'oasis de Siwa, et atteindre cette oasis dans le désert libyque n'a pas été simple, puisqu'il a fallu une pluie miraculeuse, être conduit également par les corbeaux jusqu'à une destination qui lui a ouvert la conquête.
Et qui lui a ouvert surtout le trône de Pharaon. Le clergé égyptien le reconnaît comme Pharaon. Alors il part ensuite à la conquête du reste de la Perse. Il va battre Darius. Il ne reverra jamais l'Égypte. Il va mourir en Perse en 323, 10 ans plus tard, après cette conquête extraordinaire. Mais alors il a laissé derrière lui des traces importantes. D'abord, il a prévu la construction d'Alexandrie. Puis surtout, il a prévu en quelque sorte sa succession comme pharaon d'Égypte. Puisque après la mort d'Alexandre, c'est un de ses généraux qui va devenir régent, puis Lagos, et puis le fils de Lagos, Ptolémée, hein, qui deviendra pharaon d'Égypte. Et c'est le début d'une dynastie de 17 pharaons qu'on a appelé les Lagides, ou qu'on appelle les Ptolémées aussi, hein, donc Cléopâtre sera le dernier représentant, et d'une époque qu'on appelle aussi l'Égypte hellénistique. Hein, elle devient grecque, en fait.
Mmh. Alexandre meurt à Babylone en 323, lors du partage de Babylone, Ptolémée, fils de Lagos, donc un général macédonien d'assez haute lignée, va donc faire le choix très intelligent de conserver l'Égypte. Il ne prendra le diadème royal, on ne peut pas parler de couronne mais de diadème, qu'en 306, et donc entre 323 et 306, il sera satrape d'Égypte, ce qui montre bien le souci de la continuité avec l'organisation administrative antérieure, c'était l'administration perse. Et donc il va fonder en effet une nouvelle dynastie, la dynastie des Ptolémées, puisque à l'exception de Cléopâtre VII, tous les dynastes seront des hommes.
Et des Grecs, hein, ce qu'on oublie toujours sur ce trône d'Égypte, qui ne change pas tellement, parce qu'il y a pas que la religion qu'ils acceptent, qu'ils reprennent à leur compte les Grecs d'Alexandre et les successeurs d'Alexandre. Il y a aussi les institutions. Au fond, on a l'impression que rien ne change beaucoup dans cette Égypte, à part, bien sûr, les titulaires du pouvoir.
En Égypte, on est toujours dans la problématique rupture-continuité. Donc il y a toujours des éléments de nouveauté. Là, la grande nouveauté, c'est l'installation d'une dynastie étrangère, macédonienne, parfaitement grecque, bien entendu. Il y a l'afflux d'immigrants. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais on peut penser que à peu près le septième de la population de l'Égypte sera désormais constituée de Grecs, c'est-à-dire d'habitants parlant le grec, car la définition des Grecs en Égypte est une définition culturelle. Pour être grec en Égypte, il faut être un immigrant, venir d'ailleurs, et d'autre part, parler le grec.
Et puis autre nouveauté, hein, un changement de capitale avec Alexandrie, créée donc par Alexandre justement, et qui a été pendant trois siècles une des plus puissantes villes de l'Antiquité, avec ce qui a fait d'elle aussi la capitale culturelle du monde antique, incendiée par les Romains en 300 ans après sa construction.
Venez voir l'incendie, il s'est étendu dans la cité.
La cité?
Pas toute la ville, hein, quelques maisons seulement, mais la bibliothèque est en feu.
La grande bibliothèque? Les chefs-d'œuvre des philosophes. Les commentaires de Platon, les pièces et les chroniques. Le testament du dieu hébreu. Les précieux manuscrits.
On oublie souvent, Bernard Legras, l'importance qu'a eu Alexandrie, créée donc à l'initiative d'Alexandre, et qui pendant 300 ans, et pas seulement pour cette extraordinaire bibliothèque qui avait je crois 200 000 volumes, mais qui était la plus grande ville ou une des plus grandes villes de l'Antiquité.
Alors jusqu'à ce que Rome la détrône au début de l'Empire romain, Alexandrie est la plus grande ville du bassin méditerranéen avec sans doute 400 000 habitants. Donc une ville monumentale dont il faut rappeler ici le double aspect grec et égyptien. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, il s'agit bien d'une cité grecque, il y a bien des citoyens grecs, mais dans l'architecture d'Alexandrie, il y a des éléments égyptiens puisque les Ptolémées qui se revendiquent comme pharaons, qui ont un double visage, qui sont à la fois roi grec et pharaon égyptien, ont tenu à faire de leur capitale, eh bien, une capitale emblématique qui reflète à la fois ce double aspect grec et égyptien, et donc on a des monuments égyptiens à Alexandrie même.
C'est là que régnaient donc les Ptolémées, c'est fini Memphis, Thèbes, les anciennes capitales de l'Égypte.
Alors la première capitale des Ptolémées a été Memphis, il a fallu construire la ville d'Alexandrie, qui est véritablement une ville neuve,
oui,
et qui a été construite par Cléomène de Naucratis, qui à l'époque d'Alexandre, d'ailleurs la construction de la ville a coûté très cher, c'est l'une des raisons de la disgrâce de Cléomène, et pour la raison pour laquelle Ptolémée, fils de Lagos, devenu satrape en 323, a pu aussi vite prendre les rênes du pays. Donc Alexandrie est une ville absolument magnifique qui a fait véritablement l'admiration à la fois des Grecs mais également des Romains. Et là il faut ajouter que le passage hollywoodien qu'on a entendu sur la bibliothèque d'Alexandrie n'est qu'une tradition parmi d'autres. Il y a sans doute là beaucoup à dire pour les historiens. L'incendie de la bibliothèque par César, incendie involontaire, est sans doute un mythe, puisqu'on voit très bien cette bibliothèque fonctionner au début de la conquête romaine.
Là on est à la fin au moment de l'incendie, on est à la fin de ces 300 ans de l'Égypte ptoléméique, du règne des Ptolémées. Mais alors, Alexandrie, c'était aussi, on le sait, une des sept merveilles du monde, le phare de 120 mètres, dominant un port très actif. Est-ce que ça ne marque pas, Bernard Legras, le fait d'avoir voulu mettre sa capitale sur la mer et non plus sur le Nil ou dans les terres? C'est une volonté qu'avait Alexandre et qu'ont eu ses successeurs d'ouvrir l'Égypte vers le monde extérieur, parce que c'était d'abord aussi un grand port, un port immense.
Alors, quand on parle du port d'Alexandrie, en fait, il faudrait parler des ports d'Alexandrie. Il y avait un port maritime sur la Méditerranée, on a un port sur le lac Maréotis, en arrière d'Alexandrie, qui est un port fluvial qui communiquait avec le Nil. Donc Alexandrie communique à la fois avec le monde, avec le reste du monde grec, mais également donc est tournée vers l'intérieur de l'Égypte. Et il y a tout un problème pour savoir si Alexandrie est en Égypte ou si Alexandrie est à côté de l'Égypte.
Et en tout cas avec une population très cosmopolite, beaucoup plus cosmopolite que dans le reste de l'Égypte. C'est là qu'on retrouve tous les habitants qui affluent vers l'Égypte et qui font de ce pays et de cette ville une ville universelle.
Alors je vous remercie d'utiliser le terme cosmopolite qui correspond exactement à une ville dont les habitants viennent véritablement du monde entier, des Grecs. Mais n'oublions pas que parmi les Grecs, il y a des Grecs païens qui rendent donc un culte aux divinités de la Grèce traditionnelle, mais également beaucoup de Juifs. Les Juifs qui vivent à Alexandrie qui constituent une part tout à fait notable de la population, qui sont monothéistes et qu'il faut intégrer parmi les Hellènes. Et à côté de cela, nous avons des Égyptiens, les Éthiopiens de souche, qui se sont également installés dans cette ville.
Une ville universelle, donc, comme le voulait Alexandre, et 300 ans après lui, Jules César, à l'époque de Cléopâtre.
Quand j'avais 32 ans, en Espagne, j'ai découvert une statue d'Alexandre. Et j'ai pleuré là aussi.
Prends son rêve à ton compte, César. Le grand dessin qu'il s'était tracé. Reprends-le là même où il l'avait laissé. Fais de tout ce mélange disparate de conquêtes un seul monde. Et de cet unique monde, une seule nation. Un seul peuple sur la terre, vivant en paix.
Et le centre, la capitale de cet unique monde, de ce peuple, de cette nation, Alexandrie.
Il l'avait choisi.
Je suis romain.
Il était grec. Quelle importance, puisque nous ne serons tous qu'un seul peuple.
J'ai 52 ans. Lui a 32 ans à échouer.
Nous réussirons. Le manteau d'Alexandre le Grand ne peut pas être trop lourd à porter si Rome et l'Égypte le portent ensemble.
Et c'était bien sûr l'extrait du plus célèbre des péplums, avec tout ce qu'il peut comporter d'inexactitudes historiques. Il y en a beaucoup, mais enfin c'est quand même le célèbre Cléopâtre de Mankiewicz, avec Liz Taylor dans le rôle de Cléopâtre essayant de séduire Jules César quand il arrive justement en Égypte. C'est en 48 avant Jésus-Christ, il vient de vaincre Pompée. Et à ce moment-là déjà, l'Égypte est toujours gouvernée par une Ptolémée, par Cléopâtre, la dernière des Cléopâtres, et en même temps d'ailleurs il y avait un problème, elle gouvernait l'Égypte en même temps que son frère et Marie, qui était Ptolémée XIII, c'est ça, Bernard Legras?
Oui, en effet, alors là on entre dans la vie palatiale compliquée des Ptolémées, où en effet le mariage entre frères et sœurs, que nous estimons incestueux, mais les Grecs de l'époque n'y voyaient rien à redire.
Et ils tenaient ça les Égyptiens, parce que ça se faisait dans à l'époque des dynastie égyptienne, avant les Ptolémées, les mariages entre frères et sœurs.
Oui, c'est quelque chose de très ancien en Égypte. Donc, quand le père de Cléopâtre, Seth, car il y a eu Seth Cléopâtre, meurt, elle avait prévu que lui succéderait son fils, mais qui n'avait que 10 ans, et qu'elle épouse, et que ça, que donc ce fils, qui va devenir Ptolémée XIII, épouserait sa sœur, donc sa sœur épouse, qui elle avait 17 ans. Et donc, Cléopâtre, plus âgée, plus mûre, elle était particulièrement précoce, elle a été très bien éduquée. Il faut rappeler ici que Cléopâtre, qui est bien une grecque, ce n'est en aucun une égyptienne, c'est une grecque d'Égypte, que Cléopâtre avait une culture tout à fait étendue et qu'elle est la première des Ptolémées à avoir fait l'effort d'apprendre les langues étrangères, en particulier d'apprendre l'égyptien.
Alors à ce moment-là, l'Égypte, encore une fois gouvernée par les Ptolémées, les derniers Ptolémées à gouverner, est déjà un protectorat romain quand César y arrive. On peut le dire, Bernard Legras.
Tout à fait. La poussée romaine s'exerce depuis le IIe siècle avant notre ère. Et donc quand César arrive, l'Égypte n'est plus qu'un fruit mûr qui va tomber entre les mains de l'Empire romain qui n'a cessé de s'étendre en Méditerranée orientale. Il ne fallait plus qu'une étincelle pour faire basculer l'Égypte du côté romain.
Alors César va maintenir Cléopâtre, qui le séduit sans doute pour cette raison, sur son trône. Et puis alors après son assassinat, après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, elle se retrouve dans une guerre civile. Elle prend le parti d'Antoine, les successeurs de César, contre Octave, le futur empereur. Et ça, c'est ce qui va provoquer la perte et la fin de la dynastie des Ptolémées, Bernard Legras.
Absolument. Dans les amours d'Antoine et Cléopâtre, il y a deux choses. Il y a d'une part l'amour, la rencontre de Tarse en Asie mineure, en 41, où ces deux hommes politiques se rencontrent, se séduisent et vont incarner l'un Dionysos, Antoine, et l'autre Isis. Et donc ils vont vivre dans un mythe absolument extraordinaire, devenu véritablement Dieu sur Terre. Et ils ont en même temps un projet politique, un projet véritablement romano-ptolémaïque, en n'oubliant jamais que les Romains sont parfaitement, au niveau de l'élite, sont parfaitement bilingues. Les Romains savent le grec, parlent le grec, et Antoine et Cléopâtre parlent en grec.
Alors, il va leur arriver évidemment un ennui, c'est que Octave est toujours là. Octave va les battre tous les deux à la fameuse bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, ce qui va provoquer bien sûr la mort d'Antoine et puis quelques temps plus tard, la fin, le suicide de Cléopâtre qui s'est fait piquer, disait-on, par un serpent caché par ses servantes dans un panier de figues.
Restez là toutes les deux. Vous allez m'habiller pour mon voyage. Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes. On dit qu'elles ont une saveur très âpre, mais qui passe très vite.
Et le Romain demanda, trouves-tu que ta reine a bien agi? Et la servante répondit, extrêmement bien. Ainsi qu'il convenait à la dernière de tant de nobles souverains.
C'était toujours tiré du film de Mankiewicz, la mort de Cléopâtre, la dernière de la dynastie des Ptolémées, et surtout des 31 dynasties qui les ont précédées sous la couronne d'Égypte depuis 3000 ans. Bernard Legras, c'est pas encore la fin de l'Égypte antique, puisque ce protectorat romain déjà devient une véritable province de l'Empire romain qui naît au moment où disparaît d'ailleurs la dynastie des Ptolémées.
En effet, après la mort de Cléopâtre, qui est une mort évidemment qui fait rêver les poètes, les peintres, il y a un côté esthétique évidemment dans ce suicide, en n'oubliant jamais que ce suicide par un serpent à spic, a deux raisons. Premièrement, c'est une croyance égyptienne en l'immortalité. Donc on voit bien que Cléopâtre avait adopté certaines traditions religieuses égyptiennes. Et puis d'autre part, il paraît, je n'ai jamais essayé, et j'espère que personne n'essaiera jamais, il paraît que la mort de la spic ne crée pas de douleur.
Oui. Alors, cela dit, on dit c'est le dernier des pharaons, Cléopâtre, en tout cas le dernier des Ptolémées. Je crois que les empereurs qui ont ensuite succédé, enfin qui gouvernaient l'Empire romain dans lequel se trouvait l'Égypte, avaient aussi le titre de pharaon, Bernard Legras.
Tout à fait. Le monde pharaonique égyptien continue pendant l'époque des Ptolémées et pendant les Romains. Les empereurs romains sont considérés par les Égyptiens et par les prêtres égyptiens, leur élite, comme des pharaons. Donc l'Égypte pharaonique ne s'arrête en aucun cas avec la comtesse d'Alexandre. Elle continue de manière splendide. Tout à l'heure, vous avez parlé, en début d'interview, de l'agonie de l'Égypte. Un historien de l'Égypte hellénistique et romaine ne saurait souscrire à ce terme. Ce n'est pas une agonie, c'est une période particulièrement faste, particulièrement glorieuse, qui s'exprime à la fois par de grandes institutions culturelles, mais également par une activité de construction, en particulier de temples, tout à fait exceptionnelle.
C'est quand même une évolution, c'est une métamorphose de l'Égypte. D'abord, elle devient effectivement une province de l'Empire romain. Elle est gouvernée en pratique par un empereur qui prend le titre de pharaon, mais qui lui, dont la capitale est Rome, donc l'Égypte n'est plus qu'une province, et c'est un préfet qui administre en fait l'Égypte après le suicide de Cléopâtre.
Tout à fait. L'empereur vient parfois en Égypte. Il y a beaucoup de voyages d'empereurs qui sont à la fois des voyages politiques, d'administration, de surveillance, de contrôle, mais aussi des voyages touristiques. Les empereurs romains viennent visiter les pyramides, les temples. Ils poussent jusqu'à Assouan, voir la première cataracte. Donc il y a une véritable curiosité qui est bien de l'époque. Le goût pour l'égyptomanie est déjà bien présente. Donc l'empereur est à Rome, effectivement, et c'est un préfet, un chevalier, en aucun cas un sénateur qui va administrer l'Égypte, puisque
la différence entre les deux, vous pouvez le rappeler peut-être, Bernard Legras.
Alors les chevaliers sont plus, pour dire les choses rapidement, sont plus dépendants de l'empereur. La grande terreur, on peut employer ce terme, la grande crainte des empereurs, c'est une sécession de l'Égypte, la crainte que cette province riche ne soit la base d'une nouvelle guerre civile qui provoquerait donc une mise en cause du pouvoir de l'empereur régnant.
Ils le craignent, ils le craindront tellement cette sécession qu'ils vont la morceler. On va créer différentes provinces dans cette province. On fait d'ailleurs de l'Égypte, ça c'est beaucoup plus tard, au IIIe siècle sous Dioclétien, on fait de l'Égypte un diocèse. Alors j'étais très surpris, Bernard Legras, parce que ce mot, quand je vous lis, ce mot n'a pas du tout de signification religieuse. À l'époque, un diocèse, c'est un morceau, un découpage administratif de l'Empire romain.
Voilà, c'est une province, c'est une division territoriale de l'Égypte. Et effectivement, en 284, Dioclétien, c'est une rupture importante dans l'histoire de l'Égypte. L'Égypte est divisée en plusieurs provinces et elle s'intègre de plus en plus dans l'Empire romain. L'Égypte perd sa spécificité qu'elle avait conservée sur le plan administratif sous les Ptolémées et donc aux trois premiers siècles de l'Empire.
Alors, quid de la population? Vous nous avez rappelé qu'à l'époque des Grecs, évidemment, sont arrivés de très nombreux Grecs, notamment à Alexandrie, qui avait une importante communauté juive. Là, je suppose qu'arrivent des Romains aussi. Là, est-ce que la population de l'Égypte change?
La population de l'Égypte va peu changer. Les Romains sont peu nombreux. Seule la haute administration vient d'Italie. La présence romaine se fait surtout par l'armée. Hein. L'armée romaine est bien présente. Dans l'armée romaine, il y a deux grands corps, les légions constituées de citoyens romains et les corps auxiliaires qui reçoivent la citoyenneté romaine après 25 ans de service. C'est un service qui est un métier.
Et une armée qui est chargée, vous le rappelez aussi, de défendre ce qui fait, ce qui donne sa valeur pour les Romains à l'Égypte, c'est son importance économique. C'était le grenier à blé de l'Empire romain.
Oui, alors il faut rappeler ici que la richesse économique de l'Égypte repose certes sur le fait que le grand trafic de produits exotiques passe par l'Égypte, l'or, les plumes d'autruche, et puis d'autres matériaux de construction, mais également ce fameux grenier à blé qui arrive à Rome par la Nonne et qui nourrit la population romaine et qui peut être la base d'une nouvelle puissance au cas où le nationalisme alexandrin, qui est bien présent, les Grecs d'Alexandrie n'ont jamais renoncé à l'idée d'une indépendance et on voit ce nationalisme s'exprimer en permanence.
Il y a quelques révoltes d'ailleurs qui se produisent, qui sont d'ailleurs écrasées impitoyablement par les Romains, notamment aussi des révoltes de chrétiens. Alors, il faut ça aussi, c'est une métamorphose considérable qui se produit. 40 ans après Jésus-Christ, avec Saint-Marc, arrive le christianisme qui va évidemment transformer progressivement la religion des Égyptiens parce que l'Égypte a été pendant longtemps une religion, a été un foyer essentiel dans le monde chrétien.
Tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'histoire du christianisme primitif, nous n'avons véritablement de données historiques qu'à partir du IIe siècle avant notre ère. Il faut distinguer soigneusement le premier christianisme, qui est en fait un judéo-christianisme.
Mais ce sont les juifs d'Alexandrie qui sont convertis, en fait.
Voilà, ce sont les juifs d'Égypte, d'Alexandrie et de la Cora, c'est-à-dire du plat pays. Hein, les juifs ne vivent pas que dans la grande ville. Donc, ce premier judéo-christianisme ne nous a pas laissé de traces, parce que vous avez parlé des révoltes. En 115-117, sous Trajan, il y a une grande révolte juive qui s'est étendue de la Cyrénaïque jusqu'en Égypte et qui a été réprimée impitoyablement par les Romains. Ils ont massacré hommes, femmes et enfants. La communauté juive a vécu véritablement un génocide. On peut employer ce terme.
Alors, ce qu'il y a, c'est que les chrétiens seront quand même, il y aura beaucoup de martyrs égyptiens, enfin chrétiens en Égypte. Un christianisme très national, le christianisme des Coptes, qui va se diviser. Il va y avoir le développement de l'arianisme. Il va pour cette raison se séparer de Constantinople, qui a pris en quelque sorte le relais de Rome, bien entendu, après Constantin. Et une fois que le christianisme sera reconnu comme religion d'État, et puis cette présence romaine puis byzantine est tellement pesante, elle exploite tellement l'Égypte, que assez curieusement, au début du 7e siècle, les Égyptiens, même les chrétiens, vont accueillir, au fond comme ils avaient accueilli Alexandre bien plus tôt, 900 ans plus tôt, vont accueillir les Arabes et musulmans comme des libérateurs, Bernard Legras, lorsque se termine cette période.
En effet, on a souvent été étonné par la facilité avec laquelle les arabo-musulmans ont conquis l'Égypte.
En 642, ils arrivent à Alexandrie.
Ils arrivent à Alexandrie. Et il est évident que la population égyptienne, en rupture avec Constantinople, la capitale de la Seconde Rome, la capitale de l'Empire byzantin, eh bien, ces divisions religieuses ont favorisé la nouvelle religion qui va s'imposer très rapidement, puisque à la fin du 7e siècle, l'hellénisme en Égypte, lié au christianisme, ainsi que la langue copte, c'est-à-dire le dernier avatar de la langue égyptienne, vont disparaître extrêmement rapidement. Et il reste aujourd'hui peu de choses de cette période.
Et c'est la fin de 900 ans d'une histoire méconnue, mais que l'on retrouve dans votre livre, donc, qui est un livre universitaire, très pointu, mais qui est passionnant, L'Égypte grecque et romaine, publié aux éditions Armand Collin. Vous avez pu entendre des extraits de Alexandre le Grand, de Robert Hossein, avec Richard Burton, disponible en DVD chez MGM, de Cléopâtre, de Mankiewicz, avec Liz Taylor, disponible en DVD chez Fox Pathé Opéra. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Camille Pouget-Laguier et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Comilac pour la réalisation.